Les causeries de Charlie. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nos causeries de Charlie, nos causeries du mercredi pour la sortie. Alors, c'est une causerie du mercredi qu'on fait donc le jeudi pour une fois, mais normalement, vous devriez trouver tout ça en temps et en heure sur vos sites dédiés au podcast.
Les auditeurs sont très impatients,
absolument.
Les auditrices sont très impatients.
Et puis, ils ont leurs petites habitudes, hein, comme nos anciens.
Comme...
Ce sont d'ailleurs nos anciens.
Nos anciens, souvent, qui écoutent le podcast d'après nos chiffres. Alors, oui. Autour de la table, à ma droite, une petite jeune.
Oui.
Hein, qui est à peu près la seule jeune qui écoute nos podcasts.
Parce que j'ai pas le choix.
Et c'est
parce
Lorraine.
Qu'elle les fabrique. Elle en est à l'origine.
Lorraine Redaud.
Enchantée. Enfin, bonjour, pardon.
Bonjour.
Bonjour. Pourquoi j'ai dit enchantée?
Je sais pas, c'est. C'est bien aussi. Enchanté, Gérard, de t'avoir là, Gérard.
Eh bien,
Biard,
ravi d'être là, Fouls.
Gérard Biard, qui revient de Nantes, où il a été porté en triomphe dans les amphithéâtres.
Voilà, c'est
ça. Parce que Charlie va dans les amphithéâtres, contrairement à LFI, par exemple, qui n'y arrive pas.
Qui est interdit d'y aller.
Qui est interdit d'y aller aux grandes dames de l'or. Et l'or qui est là, l'or, du
bonjour.
Coup. Bonjour. Bonjour, l'or aussi. Qui arrive de banlieue, qui repart en banlieue, qui est notre spécialiste des banlieues.
Oui.
Il en sera question tout à l'heure. Parce que lorsqu'elle aime bien, c'est qu'on décrypte un petit peu la une. Alors, cette fois-ci, ça tombe bien parce qu'elle est particulièrement belle.
C'est toi d'ailleurs qui l'a réalisé.
C'est toi qui en es l'auteur. Alors, raconte-nous, comment est née cette une?
C'est effectivement dû à la réplique iranienne sur le la réplique israélienne sur l'attaque de l'Iran. Et alors, on a mis à peu près une heure de débat de géopolitique. Hein, et puis finalement, on a fait ce dessin-là. Enfin, j'ai fait ce dessin-là. Donc, ça vaut bien le coup de se documenter sur tout ce qui se passe pour faire une chose pareille, me direz-vous. Eh bien, moi, je réponds. Plus on en connaît, plus on peut s'en détacher. Et donc, comme je connais particulièrement bien les tenants aboutissants de ce conflit, j'ai su les résumer en un dessin. C'est-à-dire Gros Kong contre Mouladia.
Quand même des jeux de mots très drôles.
Voilà, avec effectivement le clin d'œil à la culture pop et le film qui sort en ce moment. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis c'est le côté un petit peu, effectivement, à la fois extrêmement attristant et à la fois extrêmement minable de ce qui se passe. Parce que tu vois, on a Israël contre Gaza, c'est une des guerres les plus affligeantes qui soit. Quand tu vois que Gaza fait à peu près 40 km de long sur 15 de large, un truc picrocolien qui déchaîne toutes les passions, qui est ridicule, qui est tout ce que l'homme a de plus bas, c'est-à-dire la religion, toutes ces choses-là qui s'en mêlent, Netanyahou qui se cramponne au pouvoir, t'es là, une espèce de vieux monarque fini, enfin, c'est tout ça, plus l'Iran. Qui s'y même, là on est vraiment dans le... Alors autant aller dans la dérision la plus simple, et c'est souvent l'apanage du dessin.
Oui,
hein, Gérard.
Mais il y a une question qui me taraude dans une, c'est quel est le rôle du Hezbollah dans le Monsterverse que tu dessines?
Le rôle du Hezbollah dans le quoi?
Dans le Monsterverse.
Bah écoute, je sais pas, moi le Hezbollah, oui, effectivement, bah là du coup il se... Je sais pas, tu me laisses sans voix.
Je te laisse sans voix. Bon, bah écoute, peut-être
que plein de gens ont analysé la une sur les réseaux sociaux.
Oui, parce que là,
certains se demandaient pourquoi ils avaient une fermeture éclair.
Oui, parce que tu vois, c'est ça.
C'est très précis, tout est
très subtil. Ça, c'est les Godzilla à l'ancienne.
Oui, c'est le costume. C'est pour montrer le côté le plus dérisoire, comme il y a des rapiécements sur les costumes. Chacun est un peu dans son rôle en même temps. C'est-à-dire que l'Iran qui soit obligé de répliquer parce que l'autre lui a fait ci, et l'autre lui fait. L'Iran m'a fait ça, donc je dois répliquer. Voilà, ça serait drôle si c'était pas criminel, c'est ça l'homme, c'est toujours minable, et ça pourrait être drôle, mais non, il faut que ça soit aussi mortel, mortifère, c'est ça qui est toujours affligeant. Bon.
Et on nous demandait sur les réseaux sociaux des traductions de Gros Kong et Mouladia.
C'est pas évident.
Pour l'international.
Je pense qu'on peut laisser tel quel pour l'international. Enfin, on verra ce que nous diront les studios hollywoodiens quand ils voudront l'adapter. Mais...
Oui.
Voilà.
Hein? Bon, est-ce que Laure, tu
j'apprécie ce décryptage de une, absolument. J'apprécie qu'on poursuive cette idée de décrypter la une à chaque fois.
D'ailleurs, sur les réseaux, c'est ce qui est demandé, Lorraine. Beaucoup de jeunes disent quand est-ce que vous décryptez la une ?
Énormément de jeunes, bien sûr.
des manifestations, on nous demande.
En parlant de jeunes, oui. Alors là, le versant un petit peu plus sombre de la jeunesse, c'est-à-dire, on a fait, donc justement, on va parler de ce qu'on a fait en double, l'or. Et puis oui. Moi, dans un deuxième
mais
temps.
Mais oui, nous sommes allés ensemble, mais pas en même temps, mais dans même le, temps. Pour la même double.
Alors, pour une double.
Nous sommes rendus à Viry-Châtillon.
Où s'est rendu aussi aujourd'hui Gabriel Attal.
Premier ministre, Gabriel Attal.
Qui, lui, a su trouver les mots. Parce que nous, on a beaucoup d'interrogations, mais on n'a pas su trouver les mots. Alors lui, il a tout de suite su où ça se situait.
Tout de suite.
C'est-à-dire, il faut restaurer l'autorité.
Restauration, l'autorité. Voilà. Martial et autoritaire.
Nous, on n'y avait pas pensé. Hein, on est resté plusieurs jours, on n'avait rien trouvé, et lui débarque, il sait. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il est Premier ministre.
Absolument.
Voilà.
C'est ça.
À son âge, en plus.
À son âge, il a une vision claire des choses, alors que nous, on pataugeait un peu, parce que qu'est-ce qu'on a découvert ? Alors, rappelle un peu l'histoire, quand même.
Oui, rappelons l'histoire. Eh bien, ce jeune Chemseddine, 15 ans, a été tabassé à mort à Viry-Châtillon dans l'Essonne la semaine dernière. Et en fait, à l'origine de ce meurtre, il aurait en fait échangé avec une adolescente de son âge sur des sujets autour de la sexualité les grands frères, les frères de cette jeune femme s'en sont pris à lui pour lui demander d'arrêter d'échanger avec leur sœur. Et en fait, ils ont avancé l'idée, cette fameuse notion de la réputation qui ressurgit pour préserver en fait la réputation de leur sœur qui s'en sont pris à ce jeune Chemseddine. Alors, voulait-il le tuer ou est-ce que c'était une simple, entre guillemets, expédition punitive pour lui mettre la pression et au final, ça aboutit à un meurtre, ça l'enquête devra le définir. Les avocats des jeunes accusés estiment qu'il ne s'agissait pas d'une volonté de le tuer au départ, mais d'une attaque
qui aurait mal tourné.
Qui aurait mal tourné, voilà, donc ça il appartient à l'enquête de le dire.
Il a quand même mis des cagoules au cas où ça tourne mal. Enfin,
toujours est-il que... toujours est-il qu'à l'origine de ce meurtre, il a bel et bien cette fameuse notion de réputation. Ça c'est le procureur qui a rapporté les propos dans un communiqué, les propos tenus par les grands frères. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a intéressée en allant sur place, puisqu'évidemment, ça fait référence à ce que j'ai pu constater aussi à Creil lors de mon enquête autour de l'affaire Chaïna et autour de ce que vivent les adolescentes au quotidien dans les quartiers de Creil. Et c'est vrai que là, on voit que c'est une notion qui est présente un peu partout et qui en fait ça montre que toutes ces affaires sont pas de simples faits divers mais une sorte de faits de société où à l'œuvre il y a toujours cette notion là et c'est une notion qui est très présente et on voit que ça peut mener au pire y compris à ce que des garçons soient tués.
Oui, parce que là il y a la réputation de la sœur qui il y a la réputation de la famille, il y a la réputation de
et en fait toujours derrière cette notion de réputation, il y a l'idée que les filles se doivent de suivre tout un tas d'interdits de contraintes qui s'imposent à elles. Alors évidemment, tout le monde, nous aussi, on a toujours cette notion, enfin, on veut avoir une bonne réputation, mais dans certains endroits, c'est totalement exacerbé, et notamment pour les filles, et surtout, c'est que c'est basé sur une vision totalement patriarcale des relations entre les filles et les garçons, et donc ces filles se doivent de suivre tout un tas d'interdits, surtout au niveau...
Le gros tabou, c'est la sexualité.
Voilà, tout est autour du corps, de la pudeur, de la sexualité, et là, on voit que, ne serait-ce que d'échanger avec un garçon... déjà peut faire tomber cette adolescente dans la mauvaise réputation.
Il ne faut pas parler bizarre. C'est-à-dire que dans le langage, il ne doit pas avoir cette ambiguïté qui
alors,
pourrait déboucher sur une sexualisation
de
ce qu'on dit.
Au-delà de ce meurtre, j'ai voulu sur place me demander, aller voir, parler aux adolescents pour voir comment ils percevaient, eux, cette notion de réputation. Parce que finalement, c'est à la racine du problème. Et je pense qu'on ne remet pas suffisamment en cause cette notion, on n'a pas suffisamment en tête le fait que c'est vraiment ça qui est à la racine du problème. Et effectivement, ces adolescentes, elles le prennent pour un fait évident, pour un élément qu'elles doivent absolument respecter, et elles définissent cette réputation toujours, en effet, autour des notions de sexualité, et l'idée, c'est de « Ok, on peut être amie avec des garçons, elles me disent, il n'y a
même
pas de problème, on peut même avoir un amoureux, mais... il y a toujours une limite à ne pas franchir, et cette limite, c'est voilà, parler de sexualité. Et elles ont du mal à le dire. C'est vrai qu'il y a cette phrase, cette jeune femme qui me dit, il ne faut pas parler en bizarre des garçons. Oui. Voilà, ça veut dire plein de choses certainement pour elle. Et puis on peut éventuellement avoir un petit ami, mais encore c'est pas sûr, ça dépend aussi des témoignages, il y en a pour qui c'est tabou. Et puis surtout, et puis il ne faut pas donner l'impression qu'on aime trop les garçons, me disent-elles. Enfin voilà, toujours est-il que c'est une évidence pour elle de faire attention à ces comportements-là, c'est une évidence pour elle que c'est tabou.
Il y a quelqu'un qui dit qu'on a voulu salir ce garçon en disant qu'il avait eu des discussions d'ordre sexuel.
Aussi, donc, on voit que c'est tabou, y compris pour lui.
Donc oui. Avoir des discussions d'ordre sexuel, il n'en est pas question d'un côté ni de l'autre.
Absolument. Absolument, oui, oui.
Et là, tu citais un sondage de l'IFOP, justement, où 74% des musulmans de 18-24 ans, donc c'est les plus jeunes, pensent qu'il faut arriver vierge au mariage. Alors, dans la population française, c'est 8%.
Que 8%. Oui, je cite cette...
Il y a quand même, une espèce de d'ambiance un petit peu là-dessus. Et puis, il y a tout ce... Donc, tu dis que la réputation, c'est quasiment acté dans ces lieux-là. Et il y a aussi le problème des grands frères.
Voilà,
c'est aussi quelque chose qui est quasiment acté aussi, que l'autorité passe aussi par le grand frère.
Donc, c'est l'autre élément qui m'intéressait aussi, c'est quel est... Parce que là, ceux qui sont accusés, ce sont effectivement des grands frères. Et je me suis demandé comment était perçu ce rôle des grands frères. Et en effet, il n'est pas remis en cause
c'est
non plus.
Admis. Enfin, c'est très admis.
Évidemment, je précise bien que ce qui s'est passé est condamné par tout le monde. Bien évidemment, personne ne dit que les grands frères ont eu raison. Ils disent que ça va trop loin. Mais quand on discute un petit moment avec des gens, viennent des témoignages comme quoi, bon, il aurait pu leur mettre un coup de pression.
Voilà, ça, c'est admis. Le coup de pression est admis.
Une petite gifle, par exemple.
Une gifle, et c'est admis.
Voilà. Ou d'autres disent, le coup de pression, ils auraient dû le mettre sur la sœur. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un rôle qui est encore pire, là.
Il y a différentes discussions, effectivement, sur qui aurait fait lui gifler, lui, la sœur. Où doit aller le coup de pression? Là, c'est un dérapage. Hein. C'est comme une jeune fille qui me dit, il a joué le rôle, mais il a joué le rôle du père, parce que c'est ça.
Alors, voilà, il y a ça aussi. Pourquoi ils ont un tel rôle? Il y a plusieurs explications, parce que, déjà, il faut se rappeler que la politique des grands frères a été aussi institutionnalisée par les pouvoirs publics.
Oui, on a
c'était
cru
un échec total. Enfin, on a cru qu'on pouvait passer par ce biais-là.
Que les grands frères recevaient une sagesse divine et qu'ils allaient après retranscrire cette chose-là.
Mais je trouve qu'en termes de vision de la République, c'est tout à fait hallucinant parce que c'est passé par quelque chose de totalement patriarcal qui n'est pas du tout respectueux de l'égalité fille-garçon. C'était un peu
tout.
Ça a été la droite et la gauche dans les années 2000. Tout le monde, tous les maires sont passés par là, comme si c'était
des relais.
On partait de ce qui avait lieu, de ce qui était d'un fait accompli quelque part, où en effet on constatait que les grands frères avaient un pouvoir, et du coup on nourrissait ça en les prenant pour un interlocuteur dans les mairies, un relais pour pacifier les cités. Mais ça a été complètement contre-productif, et dans des familles ça leur donnait encore plus de pouvoir. Donc il y a eu ça, ça a été institutionnalisé. Maintenant on en est revenu, heureusement, mais on voit que dans certaines familles ça demeure.
On demande aux religieux aussi.
Oui, ça peut arriver, mais aussi, voilà. Mais c'est vrai. Alors,
les grands frères sont de plus en plus barbus.
On m'expliquait aussi que les grands frères ont d'autant plus de poids dans la famille, que les familles sont nouvellement arrivées, ne sont pas forcément bien intégrées, ne parlent pas forcément bien français. Et donc, dans ce cas aussi, le transfert du pouvoir du père, quelque part, le pouvoir du père est transféré aux grands frères.
Et notamment dans les familles où le père est absent, parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales là-dessus. Et ce qui explique aussi, après, quand le maire dit qu'il faut restaurer l'autorité des parents, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, justement, j'interroge une femme qui me dit, moi, je travaille à l'hôpital, je rentre tard. Effectivement, quand je rentre tard, je vois qu'il y a des enfants dans la rue, etc. Mais parce qu'il y a beaucoup de parents qui rentrent tard, il y a beaucoup de femmes qui font ce qu'elles peuvent, en fait.
Oui, absolument.
Donc après, on peut toujours dire l'autorité, mais il faut encore que... Voilà.
Mais l'autorité ne peut pas être la seule solution là-dessus, évidemment. Il faut aussi. C'est sûr que moins les gens sont intégrés, plus on est face à des difficultés ou des replis sur soi, que ce soit d'un point de vue patriarcal ou religieux.
Parce qu'il y a un manque d'adultes aussi qui est un petit peu. un petit peu prégnant. Bah, que, quand on dit qu'on va transférer l'autorité au grand frère, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres adultes dans la cité, par exemple, il n'y a pas d'autres intermédiaires, il n'y a pas d'autres...
Mais c'est vrai que on sait bien aussi que l'école a beaucoup de difficultés, manque de moyens.
C'est ce que me dit une élève, qui me dit il n'y a pas d'adultes non plus à l'école.
Il semblerait aussi, c'est intéressant dans ce que tu rapportes, on voit que les surveillants eux-mêmes ne sont pas à la hauteur.
Ma réaction normale, parce qu'elle dit une chose. Elle dit, on savait, nous, que ce gamin-là était visé, il allait lui arriver quelque chose. Donc, elle me dit, tout le monde le savait, et à l'école, personne n'a réagi, personne. Alors moi, je lui disais, il y a quand même des adultes à l'école, il y a quand même des surveillants, on peut s'adresser à un surveillant, etc. Et puis elle me disait, non, les surveillants, c'est encore pire que tout, ils nous parlent mal, ils nous... Alors, j'étais très surpris, je retranscris, allez niquer vos rats, c'est comme ça qu'ils nous parlent, les surveillants. Donc apparemment, les surveillants ne sont pas vraiment à la hauteur non plus.
Moi,
j'étais un peu dans les surveillants à l'ancienne, effectivement.
Oui, et puis même, par le plus grand des hasards, j'ai rencontré un enseignant, et d'ailleurs, c'est pas exactement le même sujet, mais bon, ça s'en rapproche aussi, un enseignant qui, en plus de ses cours, fait chauffeur Uber. Donc là, on se dit, on savait qu'il y avait des difficultés pour les enseignants, mais pas à ce point-là. Bon, donc cet enseignant qui est chauffeur VTC le week-end pendant les vacances scolaires, me dit que lui-même se sent contraint de passer par ce système des grands frères pour parler à certains jeunes. Il dit, moi, je connais le système des cités, je sais que quoi que je dise, ça ne leur fera rien. Et donc, je dis, quand je veux me faire respecter par un jeune, je lui dis, si tu ne respectes pas, je connais ton grand frère et j'irai le voir.
Là, ça a un impact.
Et là, ça aurait un impact, voilà. Mais c'est vrai que c'est très... surprenant quand même d'entendre un enseignant passer par ce biais-là aussi.
Oui, parce que donc les surveillants sont apparemment inefficients. Et puis, il y avait justement la dame qui est la mère de cette fille-là, qui était étonnée, elle, d'apprendre qu'il n'y avait plus d'infirmières scolaires. C'est-à-dire que maintenant, les infirmières scolaires se partagent entre 3-4 établissements. C'est-à-dire que c'est plus comme avant où l'infirmière avait son bureau, recevait, était là toute la journée, etc. Donc ça, c'est aussi important
pour
les jeunes filles, tout ça.
C'est
quand même des gens qui manquent. On peut souligner ça quand même. C'est des adultes qui manquent, l'infirmière scolaire, des surveillants qui soient aptes à entendre une parole plutôt que de je ne sais pas ce qu'ils font. Apparemment, c'est assez étrange. Donc la fille finit par me dire, à l'école, il n'y a plus d'adultes non plus à l'école. Donc s'il ne reste plus que des grands frères qui, eux, envoient des messages un petit peu à leur sauce, là, effectivement,
c'est complexe, voilà.
Donc c'est pas tout de restaurer justement une espèce d'autorité. Il faut aussi mettre en place peut-être des adultes référents, retisser un lien.
Retisser un lien.
Qui a toujours été bien cadré par les adultes. Et maintenant par Gérard.
C'est parce que j'ai eu des grands frères, moi.
Le seul adulte de la rédaction.
Oui, Gérard, c'est ton grand frère à présent.
Tiens à signaler.
Mais Gérard est déconstruit. Hein. Nous, à SOS Match.
Non, mais il y a le j'ai aussi le témoignage d'une membre d'une association féministe très importante qui s'appelle Femmes Solidaires, qui a une antenne à Viry-Châtillon, c'est pas le cas de toutes les associations féministes, et qui a une analyse aussi très intéressante. Elle dit aussi pourquoi la réputation est autant importante, elle prend d'autant plus de place quand en fait on n'a aucune autre identité que celle-là. Et bon, et voilà, un garçon qui n'a plus d'identité par son travail, son engagement associatif, sa vie de jeune garçon d'un point de vue du travail, des études, tout repose ensuite sur la réputation de sa sœur. Et c'est pas du tout pour l'excuser, parce qu'au final, ça tend aussi à montrer que c'est une forme de possession envers sa sœur. C'est parce qu'aussi dans cet système patriarcal...
Que la réputation de ta sœur...
Il y a une forme de... quelque part aussi, quand on parle de ces soi-disant crimes d'honneur, j'aime pas forcément ce terme-là, parce qu'évidemment, il n'y a aucun honneur là-dedans, mais il y a l'idée derrière que les filles appartiennent en fait à leur grand frère ou à leur famille, et que l'honneur, soi-disant honneur d'une famille, repose sur leur pseudo-pureté.
Oui,
et c'est donc
ça.
C'est une forme de patriarcat très exacerbé où voilà, les filles ne s'appartiennent pas, mais appartiennent à tout un groupe. Voilà. Et ça, là-dessus, c'est vrai que c'est une mentalité parfois très, très ancrée. Et
il faut, en rappelant quand même
face
que,
à cela...
En rappelant quand même voilà, que dans cette cité de Viry-Châtillon, on est très loin de cas comme Creil, par exemple.
Oui, absolument, il faut
quand
être juste là-dessus.
Quand on visite Viry-Châtillon, oui. On est quand même dans une cité qui est très propre, avec des espaces verts entretenus.
La politique
nombreux.
De la ville, c'était un des quartiers prioritaires de la ville pendant un certain temps. Il y a eu 123 millions d'euros qui ont été mis en œuvre à partir de 2007 pour réhabiliter. Il y a eu 5 écoles réhabilitées. Il y a eu la création d'un petit centre avec la création de commerce, la création d'une MJC. On l'a vu, c'est vrai qu'il y avait un endroit avec un city park, une ludothèque, un endroit pour une aire de jeu pour les enfants. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit abandonné par la politique.
Oui, parce qu'on voit des enfants jouer dans la rue.
Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est plus d'ailleurs une politique. Ce n'est plus dans le classé politique de la ville. C'est sorti de ces quartiers-là. Il y a un autre quartier un peu plus loin qui est toujours en politique de la ville, mais pas celui autour du collège Les Sablons, là où s'est passé le meurtre.
Voilà. Oui, parce qu'à Creil, où j'étais allé aussi à ta suite, il y avait carrément des rues qui étaient interdites au passage parce que c'était des dealers de drogue qui bloquaient les rues, etc. Donc là,
c'est
pas du tout la même ambiance.
Abandonné, c'est quand même beaucoup plus abandonné.
Après, on a
encore
envie de partir, à peine on en a mis un pied ici.
Et la clé de tout, c'est aussi une mixité sociale. Et là, je crois que Viry-Châtillon a encore bénéficié encore d'une mixité sociale.
Oui, parce que je vois des personnes un petit peu plus âgées, des dames là, qui sont sur un banc.
Oui.
Bah, c'est
les anciennes tentatrices, comme tu les présentes.
Elles sont habillées un petit peu comme des bobos parisiennes, presque.
Non, on n'est pas du tout sur une ségrégation sociale.
On reconnaît le petit truc
madelassé,
là, le petit gilet madelassé.
Le petit gilet
Non, mais comme quoi, ce n'est pas suffisant. Et ceci dit, beaucoup, beaucoup d'habitants sont très, très surpris tout de même de ce meurtre. C'est vrai qu'ils ne sont pas du tout habitués à... la violence n'est pas du tout aussi présente que j'ai pu le constater à Creil, par exemple. Donc beaucoup d'habitants sont très, très...
Oui, voilà. Et donc même dans ces cités-là, il se passe dans les familles, dans les foyers, des espèces
de
schémas comme ça.
Il peut y avoir des schémas patriarcales qui ressurgissent. Et voilà, quelle que soit la politique de la ville autour, enfin, c'est deux choses qui ne sont pas forcément liées, je crois, d'ailleurs.
Mais effectivement, cette notion du grand frère et tout ça, c'est quand même très partagé, que c'est une autorité légitime. Même chez des gens qui, par ailleurs, ont une vision un petit peu libérale des choses, c'est pas du tout remis en question, cette chose-là. Quoi.
C'est un vieux truc. Hein, dans toutes les familles, y compris les familles bourgeoises,
le droit d'aînesse.
Le grand frère, ou la grande sœur, d'ailleurs, s'occupe et chargée de s'occuper des plus
oui,
petits.
Mais sans,
enfin, voilà, bon,
oui,
c'est,
mais sans forcément c'est... veiller sur leur moralité, tu vois.
Non, il y a cet élément en plus, mais ce qui est un élément... Ouais.
Sauf si ça allait vraiment dans des dépravations comme tu as connu. Ta sœur a su te remettre dans le droit chemin quand tu...
Oui, absolument.
Ouais. Tu as dérivé. C'était l'héroïne, je crois, hein, Gérard.
C'est
un Italien. Donc, tout le monde a vu Gomorra. Pour voir à peu près à quoi tu échappes.
C'est le Chianti.
Et la Bretagne.
Chianti.
C'est quoi le rôle des grandes sœurs en Bretagne,
En Bretagne, on est surtout élevé par des druides. Et donc c'est un autre schéma. C'est pas vraiment transportable.
C'est un autre schéma clanique.
Oui, voilà. Nous, on va dans la forêt, puis les druides nous font des choses. Ils nous font boire des potions. Ils nous font toucher des choses en granit.
En granit.
C'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, tiens, tous, c'est du granit. Mais effectivement, c'est dur. Enfin bref, ce genre de choses, on va peut-être pas s'étendre là-dessus. Mais
non.
Alors, ça serait peut-être le sujet d'un autre reportage.
Écoute.
On pourrait peut-être aller à Brocéliande, voir un petit peu comment ça se passe dans les familles.
Mais oui.
Il y a des familles à Brocéliande.
Oui. Oui, dans la forêt. Dans la forêt. Des petits messieurs. Oh, tu sais, ils sont hauts comme trois pommes. Avec des oreilles en pointe et un petit chapeau.
Bien. Elle est bonne,
elle comprend.
Bah, c'est un sujet.
Bon.
Mais j'ai bientôt d'ailleurs un reportage en Bretagne, parce que je suis sur un sujet un peu toujours autour de cette place des femmes dans la cité.
Ça, alors.
Parce qu'il y a aussi des cités en Bretagne, oui. On m'a dit ça, donc je réponds
tellement de choses en Bretagne.
J'ai été à Rennes rencontre d'un groupe de femmes absolument formidables qui ont créé les clandestines à la suite du féminicide d'une de leurs amies, et qui a été une sorte de déflagration dans leur communauté. Elles, à l'issue de ça, beaucoup de femmes ont porté plainte également. Elles vivaient des violences quotidiennes, mais quelque part, ce que m'explique une des fondatrices de ce collectif, elles étaient tellement élevées dans l'idée, ce sont des femmes migrantes, et elles étaient élevées dans l'idée qu'elles devaient quelque part accepter ces violences, servir leur mari, et elles expliquent en fait le long chemin pour se libérer de cette culture-là, elles mettent en place aujourd'hui des groupes de parole dans leur cité. Voilà, je développe tout ça dans le prochain numéro qui vient.
Absolument. Dans le prochain numéro.
Et ce serait illustré par Rhys.
Et on attend. Absolument. Voilà. Qui lui attend avec impatience de lire ce reportage. Voilà.
Rhys est parti d'illustrer sur ces terres où l'on sait ce que c'est que tenir une femme. On n'en dira pas plus.
Non. J'en dirai pas plus, non.
Je crois que là, nos auditeurs sont sur des charbons ardents pour le prochain numéro.
Quel teasing.
Lorraine.
Oui.
Est-ce que tu veux dire quelque chose sur un sujet? Toi, tu voulais parler de cette nouvelle manie
de rien du tout.
Des gens qui sont non contractants. Juste une petite parenthèse pour terminer.
Non,
c'est assez drôle.
C'est toi qui m'as dit d'en parler.
Non.
Je révèle la vérité à nos auditeurs.
C'est pas possible.
Sur les citoyens souverains?
Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend de plus en plus parler. Et certains sont tentés, n'est-ce pas, Gérard?
Pas du tout.
Raconte-nous.
Non, tout a déjà été un peu dit, mais donc c'est une mouvance qui vient des États-Unis avec quelques différences françaises. Et en France, c'est des personnes qui considèrent que la France, ayant un numéro de SIRET comme les entreprises, c'est une entreprise privée et décide de ne pas du coup se joindre aux droits et aux devoirs qu'implique vivre dans une république.
Je n'ai pas contracté de contrat avec la France, donc je ne vais pas payer mon PV.
C'est ça, les policiers, par exemple, sont des mercenaires, en fait. Donc, ils ne contractent pas à ce contrat social.
Bon, tout ça, c'est parti un peu de la mouvance libertarienne, quoi, un petit peu. C'est ça?
Non, en fait, à la base, ça vient des États-Unis. Mais c'est Jean-Yves Camus qui l'explique dans le numéro de cette semaine, que ça vient notamment des suprémacistes blancs américains.
Oui, c'est ce que je dis.
Voilà.
Donc, tu me dis non, devant tout le monde.
Pardon.
Alors, c'est ça.
Tu utilises des mots trop compliqués pour moi, c'est pour ça.
Non, les libertariens ne sont pas forcément des
suprémacistes
blancs.
Ah, Gérard qui. Voilà.
Allez, c'est ça, voilà.
C'est autre chose.
Non, mais bon, les suprématistes blancs sont parfois libertariens.
Tu devrais rejoindre Zéro Macho, toi, s'il faut.
Pas forcément.
J'y suis, Zéro Macho.
C'est bon, on dirait pas.
Non, non. Voilà, des mois qui répondent cette fausse information, c'est absolument faux.
Je suis le vice-président des suprématistes.
Absolument faux. Foul se fait partie des incels.
Oh là là,
t'es un masculiniste.
T'es un masculiniste toxique.
Tu es un célibataire insatisfait.
Oh là là,
du tout.
T'es très content de toi,
je suis content, je suis célibataire et content de moi.
Ah, avis à toutes les auditrices ou auditeurs. Foul, c'est célibataire.
Est à
moi, je suis comment pansexuel.
Tu es pansexuel.
Sais-tu ce que ça veut dire?
Oui, j'aime toutes les formes de vie.
C'est beau.
C'est beau.
C'est très beau.
Y compris le granit.
Surtout le granit.
Quand il est dur. Ce qu'il est souvent.
Mon Dieu.
Donc, méfions-nous.
On adore ce podcast.
Méfions-nous de tous ces gens
qu'ils ne contractent pas.
Voilà, exactement. Parce qu'on en rigole, mais en vrai, c'est quand même assez dangereux et ça peut mener à des
contrats. Pas de contracter, de contrat. Non, mais parce qu'au début, j'étais surpris. Pardon.
L'intervention
n'a aucun intérêt.
Non, pardon, j'ai pas compris.
Décontractez-vous, c'est ça que tu veux dire.
Le mot je ne contracte pas vient du mot contrat.
Oui.
Et pas du mot.
Ah oui, contracter.
Se décontracter.
Contracter.
Oui, nuance importante.
Relâcher. Contracter. Relâcher. C'est ça que tu voulais dire. Alors que nous, on essaie de parler sérieusement de vraies problématiques.
Oui, de dire que c'est pas si drôle que ça et que c'est quand même assez un peu inquiétant.
Oui, parce que ça gagne un petit peu beaucoup de gens, là. C'est une espèce de.
Oui, c'est sûr que la vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux a mis un coup de projecteur à cette mouvance, mais je sais pas si. J'ai pas vraiment de chiffres, donc je saurais pas dire s'il y a énormément de gens qui croient qu'ils font partie de cette.
C'est-à-dire qu'ils s'en revendiquent quand ils sont arrêtés, ils disent excusez-moi, je ne contracte pas, laissez-moi passer, ou ce genre de choses.
Oui, c'est ça, et puis ils ont des faux permis de conduire, ils payent pas leurs impôts.
Donc il y a quand même une mise en place d'un certain nombre de procédures.
Ah oui, leur but, c'est ils essayent de faire leur propre système à eux qui ne répond à rien ni personne. Mais ça peut mener à des drames de vie.
Ça peut mener à la Corse.
Aux États-Unis, certains ont été assassinés, il me semble, par des.
Aux États-Unis, tout à fait. Il y a eu des meurtres, et en France, on le souhaite pas, mais.
Oui, comme quoi, c'est quand même.
Quand
assez
le fermier général vient exiger sa dîme, il y en a qui l'assassine. On en est là.
Ça peut.
Alors, je vois que la sonnette d'alarme a été tirée, oui. Ici au moins. Et merci, Laure, pour tes précisions sur ce que c'est que des contractés et pas contractés. Hein, c'est toujours. Gérard, Fouts. Tu vas pouvoir partir je ne sais pas où, parce que tu as déjà le paletot sur le dos, donc tu repars pérégriné. Et nous vous disons à toutes, eh bien, une bonne semaine et à nos prochaines causeries. Au revoir.
Bonne semaine.
Au revoir.
Au revoir.